Chapitre 38. En pénétrant sous le dôme de glace bleue, Daeman entendit les échos susurrés de murmures et de chants.
« Pense-t-il, lui l'a créé avec le feu qui la vaut, un œil de feu dans une balle d'écume qui flotte et se repaît. Pense-t-il, il a chassé, veillé de cet œil bridé aux cils blancs, au clair de lune, et la pie à la langue si longue qui fouille la glèbe en quête de verre, et dit des mots tout simples qu'en trouve son trésor, mais ne veut point dévorer des fourmis. Et les fourmis qui ont bâti un mur de graines et protégé leur tanière de brindilles dressées. Il a créé tout cela, et davantage, créé tout ce que nous voyons, et nous-mêmes, par dépit. Sinon, comment ?»
Daeman reconnut aussitôt cette voix. Caliban. Les échos de ce murmure sibilant résonnaient sur les murs de glace bleue, dans les tunnels de glace bleue, et ils semblaient venir de partout et de nulle part, terrifiant de par leur proximité et rassurant de par leur éloignement. Et cette voix unique se multipliait pour former un chœur, une multitude de voix en parfaite et terrible harmonie. Plus terrifié qu'il ne l'aurait cru, beaucoup plus terrifié qu'il ne l'aurait imaginé, Daeman baissa la tête et émergea du tunnel de glace pour déboucher sur une mezzanine de glace. Après avoir rampé pendant une bonne heure, parfois contraint de rebrousser chemin lorsqu'un boyau se rétrécissait pour finir en cul-de-sac, parfois butant au détour d'un tunnel sur une paroi ou une cheminée d'une hauteur désespérante, sentant de temps à autre son sac à dos racler le plafond et le défaisant alors pour le pousser devant lui avec son arbalète, voilà qu'il arrivait enfin au cœur de la cathédrale de glace. Daeman ignorait tout des mots antiques qui lui auraient été nécessaires pour décrire l'espace s'offrant à son regard, et qu'il découvrait depuis l'une des centaines de mezzanines accrochées à la paroi incurvée du dôme. Mais s'il les avait assimilées par siglage, il n'aurait eu que l'embarras du choix parmi eux. Spire, dôme, arcade, arc-boutant, abside, nef, basilique, chœur, porche, chapelle, rosace, alcôve, colonnade, autel. Chacun d'eux s'appliquait à l'un ou l'autre des éléments du décor, et il en aurait fallu bien d'autres pour rendre justice à celui-ci. Oui, bien d'autres. Pour autant qu'il pouvait en juger, l'espace qu'il avait devant lui s'étendait sur 1500 mètres, et 600 mètres séparaient le sol rougeoyant de l'apex d'un bleu soutenu. Ainsi qu'il l'avait deviné quelque temps plus tôt, cet ébauche avait recouvert la totalité du cratère qui avait donné son nom à la ville, et il s'en dégageait une lueur rouge et palpitante qui évoquait un gigantesque cœur battant. Daeman ignorait s'il s'agissait d'une activité volcanique naturelle, le magma remontant des profondeurs, ou un trou noir avait jadis violé l'intimité de la Terre, ou si cet ébauche appelait à lui chaleur et lumière afin de les exploiter. Le reste du dôme était coloré de nuances qu'il aurait été incapable de décrire. Un camailleux de rouge autour du cratère, des orangers irisés et subtils sur le sol et au pied des parois, des veines d'écarlate parcourant les arcs boutants et les stalagmites jaune-orangés, et un dégradé vers des couleurs plus froides sur toute la hauteur des immenses piliers. Quant aux murs, aux colonnes, aux tendons et aux tours, tous d'un bleu glacial, ils étaient constellés de lueurs vertes et d'étincelles jaunes, nervurés de pulsations rouges, courant comme des décharges électriques, sans parler des éclairs multicolores qui reliaient diverses sections de la cathédrale, comme l'auraient fait des dendrites en pleine activité. La coque du dôme était par endroits si mince que la lumière du jour finissant illuminait des rosaces à l'ouest. L'apex était quasiment transparent et permettait d'entrevoir un ovale de ciel indigo où frémissaient les premières étoiles floues. Le plus curieux, c'était les centaines de croix gravées sur la paroi au-dessus du sol, et dont chacune faisait un peu moins de 2 mètres de haut. Elles s'étalaient sur tout le pourtour du dôme, et en se penchant depuis sa mezzanine, Daeman en aperçut d'autres au-dessous de lui, comme gravées au fer dans la glace bleue. On aurait dit des niches métalliques désertées par leurs occupants, que la lueur du cratère éclairait d'une nuance de rouge. Le sol était lui aussi fort encombré. Un peu partout se dressaient des stalagmites barbelées et des spires rugueuses qui allaient parfois jusqu'à effleurer le plafond, dessinant ainsi de majestueuses colonnades bleues. Les zones qui les séparaient, loin d'être lisses, étaient parcourues de nervures et parsemées de petits cratères d'où montaient des fumerolles. Le gaz, la vapeur et la fumée y mêlaient leurs volutes, et Daïman perçut un parfum de soufre sur les courants d'air tiède. Au centre du cercle rougeoyant s'ouvrait un grand cratère aux parois en dents de scie, bordé d'escaliers de glace bleue et piqueté de solfatare. Ce cratère, au-dessus du cratère, semblait rempli à ras-bord de pierres blanches et rondes, que Daïman finit par identifier comme des crânes humains. Ils se comptaient par dizaines de milliers, pour la plupart enfouis sous la masse qui occupait le cratère. L'ensemble évoquait le nid d'une entité monstrueuse, une entité formée d'un tissu cérébral gris, aux multiples circonvolutions, grouillant d'une myriade de paires d'yeux, de bouches et d'orifices s'ouvrant et se refermant sans la moindre synchronisation, une entité qui reposait sur une vingtaine de mains titanesques, lesquelles déplaçaient cette masse de temps à autre, comme pour lui assurer une position plus confortable. Et Daïman distingua d'autres mains, bien plus grandes que la chambre qu'il occupait à Ardis, des mains fixées à l'extrémité de tentacules poussant à même la matière grise et cramponnées au sol rougeoyant. Certaines d'entre elles étaient si proches de lui qu'il vit à l'extrémité de leurs doigts une multitude de pointes ou de crochets noirs et barbelés. Chacun de ces appendices, des poils transfigurés, était plus long que le poignard passé à sa ceinture, et il permettait aux doigts de s'incruster dans la glace bleue. Ses mains allaient partout, grimpaient partout, sur la pierre, la glace et l'acier, grâce à ces crampons noirs auxquels aucune matière ne résistait. La cervelle qu'était cet ébos avait cru dans des proportions considérables depuis que Daïman l'avait vu émerger du trou dans le ciel moins de 2 jours plus tôt. Il avait estimé sa longueur à 30 mètres et elle approchait désormais la centaine, sa hauteur atteignant 30 mètres en son centre, là où les circonvolutions s'ouvraient sur une profonde scissure. L'entité débordait de son nid et chaque fois qu'elle bougeait, on entendait craquer les crânes comme aurait grincé une paillasse.
« Pense-t-il, en sa gloire, on ne voit ni le bien ni le mal, ni tendresse ni cruauté. Il est la force et le seigneur, dit-il, il est terrible. Pour preuve, voyez ses prouesses. »
La voix sibilante de Caliban coulait le long des parois, témoignage d'une parfaite acoustique, rebondissait sur les solfatars et les ziggourats, puis dans le labyrinthe des tunnels de glace, et elle semblait converger sur Daïman de toutes parts, tel un murmure meurtrier. Tandis que les yeux de Daïman s'habituaient à la pénombre rougeoyante et à l'échelle du vaste hémisphère, il aperçut des créatures qui se mouvaient autour du nid de cet ébos, qui trottinaient à 4 pattes sur les marches menant à la cervelle, redescendant en position debout, porteuses de cosses ovoïdes qui luisaient d'un écœurant éclat laiteux. Daïman crut un instant qu'il s'agissait de Voynix. Il en avait vu des douzaines au cours de son long périple dans le dédale de glace, pas des Voynix indemnes, quoique gelés comme il en avait rencontré au début, mais des cadavres étripés, une carapace évidée ici, une patte ou une bosse déchiquetée là, un bras hérissé de lames un peu plus loin. Mais il plissa les yeux et vit que les serviteurs qui s'activaient au milieu des plumets de fumée n'étaient pas des Voynix. Ils étaient identiques à Caliban. Des Calibani, se dit-il. Il avait découvert leur existence 1 an auparavant, alors qu'il traversait le bassin méditerranéen en compagnie de Savi et d'Arman, et il comprit alors la nature de ces croix fixées à la paroi du dôme. Savi les avait appelés des berceaux de rechargement, et Daïman était tombé sur un Calibani niché dans l'une de ces croix, nu comme un ver, les bras écartés, et il l'avait cru mort jusqu'à ce que s'entr'ouvre son œil jaune de félin. À en croire Savi, c'était Prospero et l'entité biosphérique dénommée Ariel qui avaient produit les Calibani par ingénierie génétique à partir d'une souche humaine afin d'empêcher les Voynix d'envahir le bassin méditerranéen ainsi que d'autres régions que Prospero souhaitait préserver de leur emprise. Daïman jugeait désormais qu'il s'agissait là d'une erreur ou d'un mensonge. Les Calibani ne provenaient pas du genre humain, mais bien du Caliban originel, ainsi que l'avait reconnu Prospero sur son île orbitale. À l'époque, cependant, Daïman avait demandé à la juive errante Pourquoi les post-humains avaient créé les Voynichs, vu qu'ils avaient été contraints par la suite, eux ou Prospero, de créer un autre type de monstre pour les contenir?
Oh, ce ne sont pas eux qui ont créé les Voynichs, avait-elle répondu. Les Voynichs viennent d'ailleurs, et ils servent un autre maître qui a ses propres objectifs.
Daemon n'avait pas compris sur le moment, et il ne comprenait toujours pas aujourd'hui. De toute évidence, ces Calibani qui s'agitaient sous ses yeux, grouillant sur le cratère tel des fourmis d'un rose obscène pour transporter ses œufs couleur de lait, servaient ces Thébos, ces noms Prospero. Dans ce cas, qui a fait venir les Voynichs sur Terre, se demanda-t-il. Si les Voynichs ne sont pas au service de ces Thébos, pourquoi s'en prennent-ils à Ardis et aux autres communautés d'humains à l'ancienne? Qui est le maître des Voynichs? Tout ce dont il était sûr, c'était que la venue de Cétébos à Paris-Cratère avait été un désastre pour les Voynichs. Ceux qui n'étaient pas pris dans les glaces avaient fini évidés comme des crabes. Évidés par qui? Ou par quoi? Deux réponses lui vinrent à l'esprit et ni l'une ni l'autre n'étaient rassurantes. Les Voynichs avaient succombé sous les griffes et les crocs des Calibani, ou alors aux mains de Cétébos. Soudain, Daemon comprit que ce qu'il avait pris pour des nervures sur le sol étaient en fait des tentacules émanant de Cétébos. Il disparaissait dans des boyaux ouverts dans la paroi et il pivota sur lui-même, le doigt sur la détente de son arbalète. Un bruissement montait du tunnel de glace derrière lui. L'une des mains de Cétébos, trois fois plus grosse que moi, qui s'insinue dans cet être en passage. Il attendit à croupetons, sentant ses bras tressaillir sous le poids de son arme, mais nulle main ne lui apparut. Toutefois, il entendait bien des échos visqueux en provenance du tunnel. Ses mains sont dans les murs et sans doute ont-elles gagné les crevasses au dehors, se dit-il en ordonnant à son cœur de se calmer. Il fait noir dans les tunnels et la nuit est tombée. Que vais-je faire si je croise une de ses mains? Il avait vu dans la paume de l'une d'elles palpiter une plaie béante. Les Calibani y enfournaient des quartiers de viande rouge, Voynichs ou humaine. Il finit par se coucher à plat ventre sur la mezzanine de glace bleue, sentant la froidure de cette substance. Il pensait désormais qu'il s'agissait d'une matière organique excrétée par Cétébos, lui pénétrer les chairs à travers sa thermopeau. « Je peux fiche le camp d'ici. J'en ai suffisamment vu. » Couché à plat ventre, tenant sa ridicule arbalète, baissant la tête pour ne pas être repéré par un groupe de Calibani courant à quatre pattes à moins de 100 mètres en contrebas, Daemon attendit qu'un semblant de force infuse ses membres de coir afin qu'ils puissent fuir à toutes jambes cette cathédrale impie. « Je dois aller faire mon rapport à Ardis », déclara la voix de la raison. « Je n'ai plus rien à faire ici. »« Faux », répondit la voix de l'honnêteté, celle qui un jour l'entraînerait à sa perte. « Tu dois déterminer la nature de ces horribles œufs gris. » Les Calibani avaient stocké certains des œufs en question au-dessus d'une solfatare distante de moins de 100 mètres, un peu à droite de son poste d'observation. « Je ne peux pas descendre jusque-là. C'est trop loin. » « Menteur. Ça fait à peine 30 mètres. Tu as assez de cordes et de pitons. Et tu as toujours tes marteaux piolets. Une fois en bas, tu cours jeter un coup d'œil à ces machins, emportes-en un si tu peux. Ensuite, tu remontes ici et direction la sortie. C'est de la folie. Je serai vulnérable dès que j'aurai posé le pied sur le sol. Ces Calibani sont passés entre le nid et ma position. S'ils m'avaient trouvé sur leur route, ils se seraient emparés de moi et ils m'auraient dévoré ou conduit à Cétébos. Ils sont partis. Saisis ta chance. Descends et tout de suite. Non, fit Daemon, qui se rendit compte qu'il avait parlé à voix haute. Mais, une minute plus tard, il plantait un piton dans la mezzanine, y attachait sa corde, passait son arbalète en bandoulière et entreprenait de descendre avec un luxe de précaution. « Bien, tu te montres courageux pour une fois et ta gueule !» ordonna Daemon à la voix de l'honnêteté qui était aussi celle de la stupidité. Elle lui obéit.
« Qu'on soit, que toutes choses continueront ainsi et que nous vivrons dans sa crainte !»
reprit la voix sibilante. La voix de Caliban et non celle des Calibani. Daemon n'en doutait point. La voix de Caliban. Le monstre originel se trouvait quelque part sous le dôme, peut-être derrière Cétébos, de l'autre côté du nid.
Pense-t-il que quelques jours étranges, c'était Bos, notre seigneur, celui qui danse dans les nuits enténébrées, viendra à nous comme la langue à l'œil, le croc à la gorge, ou alors croîtra comme larve croît en papillon. Sinon, nous voilà, et le voici, et nulle part ne vient secours.
Daïman continua de glisser le long de la corde.